Bonjour à tous, bienvenue sur Sud Radio, il est 6h.
Parlons vrai.
Dans un instant, votre petit matin vous accompagne même en ce jour férié, mais tout d'abord les informations avec Charles Belon. Bonjour Charles.
Bonjour à tous. Israël pourrait intensifier son opération dans toute la bande de Gaza, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Défense israélien ce mardi, et ce s'il n'y a pas d'avancée sur la libération des otages détenus par le Hamas. Il a également évoqué qu'à ce sujet, l'État hébreu serait prêt à des compromis. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui annoncé en fin de journée mardi qu'une délégation avait été envoyée au Caire où se tiennent des pourparlers entre le Hamas et les pays médiateurs concernant un possible cessez-le-feu. La majorité présidentielle réunit ce mardi soir à la Mutualité à Paris. Une réunion en soutien à la tête de liste Renaissance pour les élections européennes, Valérie Ayé. Cette dernière qui est créditée de 17% des intentions de vote, loin derrière les 32% du Rassemblement National selon le dernier baromètre Ipsos. Présent sur place, le Premier ministre Gabriel Attal a parlé d'un tournant dans la campagne et de déclarer qu'il reste 4 semaines pour faire gagner la France et l'Europe dans cette élection. Dans l'actualité également, un devoir de visite pour les pères absents, c'est ce qu'envisage Emmanuel Macron. Le président de la République a accordé un entretien au magazine Elle. Un devoir de visite qui remplacerait le droit de visite. Le président estime que les deux parents doivent exercer leur responsabilité à l'égard de leur enfant. Une proposition visant notamment les familles monoparentales où 85% des enfants sont élevés par des femmes. Et c'est une première dans la législation européenne. Le texte pour combattre les violences contre les femmes adopté ce mardi par le Conseil de l'Union européenne. Cette loi, déjà approuvée par le Parlement il y a 2 semaines, criminalise les mutilations génitales féminines, le mariage forcé, le partage non consenti d'images intimes ou encore l'incitation à la haine ou à la violence en ligne. Un texte qui exclut cependant le viol, les 27 États membres n'étant pas parvenus à se mettre d'accord sur une définition commune. Et puis un mot de cyclisme pour terminer. Nouveau sprint massif ce mardi à l'occasion de la 4e étape du Giro et c'est Jonathan Milan qui s'est imposé. Il s'empare par la même occasion du maillot violet du meilleur sprinter. Concernant le classement général du Tour d'Italie, pas de changement. Tadej Pogacar reste le leader avec le maillot rose. Bonne journée à tous.
Merci beaucoup Charles. Retour de l'actualité dans une demi-heure.
La météo Sud Radio.
Et tout de suite, on retrouve Rémi André pour la météo avec une amélioration un petit peu lente, mais une amélioration quand même. Bonjour Rémi.
Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Eh bien aujourd'hui, l'amélioration se poursuit. Lentement, certes, mais sûrement, car nous avons déjà sur la moitié nord un temps plus calme avec certes quelques bandes de brume, de brouillard, des nuages bas également, surtout près du littoral. Mais tout cela va lentement se dissiper et dans l'après-midi, eh bien c'est le soleil qui va dominer sur la moitié nord. Au sud, en revanche, nous avons encore tout de même pas mal de nuages, notamment vers les Pyrénées. Mais ces nuages vont peu à peu se dissiper en milieu de journée. Dans l'après-midi, nous retrouverons quelques averses, notamment depuis la Lorraine jusque vers l'Auvergne et puis également sur le nord de Midi-Pyrénées, notamment sur le Tarn. Mais peu à peu, tout cela va se calmer et à partir de la nuit prochaine, c'est le beau temps qui va se poursuivre car la fin de semaine restera donc marquée par le retour du soleil d'un temps plutôt estival puisque vendredi et samedi, nous pourrions avoir des températures limitées aujourd'hui entre 17 et 22 degrés. Et je disais donc vendredi et samedi, nous pourrions dans le sud-ouest dépasser les 28 degrés.
Merci beaucoup Rémi André.
L'horoscope Sud Radio.
Et votre horoscope de ce 8 mai avec vous, Bénédicte, bonjour.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 8 mai.
Bélier, vos doutes s'estompent et cela vous met du baume au cœur pour aller de l'avant.
Taureau, vous êtes décidé à affronter des questions importantes et vous saurez entraîner votre entourage.
Gémeaux, vous êtes paré pour lutter sans vous en rendre compte.
Le sommeil sera votre meilleure source d'énergie, il gagne en qualité. Profitez-en.
Cancer, vous en faites trop pour les autres. Accordez-vous des pauses rien que pour vous et pour vous relaxer.
Lion, des événements se produisent dans une ambiance assez stressante.
Vous affrontez des surprises et des changements inévitables.
Vierge, n'essayez pas d'imposer vos conceptions.
Soyez réceptif aux conseils, ils peuvent vous aider considérablement.
Balance, vous avez besoin de vous démarquer à tout prix.
N'en faites pas trop dans la provocation.
Scorpion, le ciel vous invite à vous renouveler, à vous libérer de certaines pressions étouffante et à revendiquer votre individualité.
Sagittaire, vous vous affirmez avec aisance. Vous mettez un terme à des relations malsaines sans regret.
Capricorne, le contact avec la terre, la nature, les animaux vous serait particulièrement régénérant aujourd'hui.
Verseau, si vous jouez les cartes de l'honnêteté et de la souplesse, vous viendrez beaucoup plus facilement à bout des attaques dirigées contre vous.
Poisson, des alliances favorables deviennent possibles.
Allez au-delà des apparences, vous serez surpris vous-même.
Merci beaucoup, Bénédicte.
Le Petit Matin Sud Radio, 6h-8h, Laurie Leclerc.
Et ravi de vous retrouver, de vous accompagner jusqu'à 8h ce petit matin et même les jours fériés en ce 8 mai. Vous vous levez peut-être tôt, vous allez au travail. Nous sommes ensemble sur Sud Radio. Nous partirons évidemment aujourd'hui du côté de Marseille. Marseille, centre du monde avec l'arrivée de la flamme olympique. Aujourd'hui, nous aurons avec nous dans la prochaine heure une porteuse de flamme. Vraiment un honneur, une occasion exceptionnelle. Également Thomas Soto qui sera l'invité de Valérie Expert et Gilles Gansman. Il y a également les autres événements marquants de ce 8 mai, des anniversaires et notamment un grand chanteur espagnol. Et bien sûr, cette flamme olympique avec nous. Également l'actualité qui revient toutes les demi-heures. L'actualité, c'était également la visite du président chinois en France. C'était dans les vraies voies. Hier, Frédéric Brindel et Judith Belair qui posaient cette question. La France a-t-elle raison de mettre la Chine à l'honneur ?
Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour.
Xi Jinping, le président chinois, est en France.
La Chine a un rôle à jouer dans les conflits mondiaux et notamment dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine.
Et il faut absolument qu'Emmanuel Macron parle effectivement non seulement des Ouïghours, des Tibétains, mais également de la violation de l'accord de rétrocession de Hong Kong.
C'est la raison aussi pour laquelle il faut avoir un dialogue de vérité avec, avec le président chinois.
Il n'est pas venu avec l'intention de nous dérouler, lui, un tapis rouge, mais de venir chercher à diviser l'Europe parce qu'il a des objectifs qui sont des objectifs très clairs et qui ne sont pas des objectifs amicaux.
Xi Jinping, le président chinois, vous le savez, est en visite sur notre territoire depuis dimanche. Une visite d'État de 2 jours pour célébrer les 60 ans des relations diplomatiques franco-chinoises. Cependant, les présidents chinois et français tiennent des positions très éloignées sur le plan économique et géopolitique. Et nombre de voix s'élèvent contre le tapis rouge que lui déroule la France, dont par exemple Raphaël Glucksmann, pour le citer, qui souligne pour sa part que selon lui, la Chine n'est pas notre amie. C'est donc la question logique que nous vous posons sur Twitter, sur X. Aujourd'hui, question du jour. Qu'en pensez-vous ? La France a-t-elle raison de mettre la Chine à l'honneur ?
Vous nous dites ce que vous en pensez sur le compte X et parlons vrai surtout. Vous êtes plutôt le business, c'est le business où je ne parle qu'aux vertueux, j'ai des principes. Notre société occidentale peut-elle légitimement donner des leçons de savoir-vivre aux Chinois ? Bref, est-ce que ça vaut le coup d'en faire des tonnes à l'occasion de la venue de Xi Jinping ? Pour nous éclairer, Jean-Joseph Boileau, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des grands pays émergents et notamment de la Chine. Bonsoir. Jean-Joseph Boileau.
Bonsoir à tous.
Alors, le principe, c'est on fait le tour de table des vraies voix, ils ont des questions, des observations et vous nous éclairez après.
Allez, c'est parti. Philippe Bilger, qu'est-ce que vous en pensez, vous, alors, que la raison
J'admets bien volontiers que ma première approche est très superficielle, c'est-à-dire que, et je ne parle pas des blocages impressionnants de Paris hier soir, mais c'est le fait que je trouve qu'en effet, même en accueillant au nom du réalisme le président chinois, on n'était peut-être pas obligé d'en faire autant sur le plan notamment de la réception quasiment familiale. Je sais bien qu'Emmanuel Macron a toujours pensé que sa séduction était telle qu'il pourrait ramener tous les dictateurs dans le droit chemin démocratique. Là, je crois que ça va être très dur. Mais une fois cela dit, je comprends bien la volonté du président Macron de vouloir éventuellement se servir du dictateur chinois pour, par exemple, apaiser, normaliser Poutine, si on peut être naïf, une seconde. Et donc, je ne discuterai pas la venue de celui-ci en France, les intérêts économiques que vous avez évoqués, Frédéric, bien sûr, mais je trouve que il a du mal, Emmanuel Macron, à trouver le juste milieu entre un contact à la fois politique et technique et, je dirais, une forme d'obséquiosité diplomatique.
Oui. Françoise de Gaulle.
Oui, moi, je pense que tout le monde, personne n'est assez fou, d'ailleurs personne ne l'est, pour dire qu'il ne faut pas accueillir la Chine. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec la question binaire posée par Frédéric Brindel, soit, non, c'est entre les deux. Bien sûr que il n'y a aucun pays qui a vocation à se conduire comme une ONG. Et d'ailleurs, aucun des dirigeants ou des candidats ne dit qu'il fallait ne pas accueillir si. Simplement, je pense que la diplomatie de l'intime, ça, c'est absolument grotesque. C'est véritablement, je ne sais pas qui a trouvé ça, McKinsey ou pas, mais ça n'a absolument aucun sens. Imaginez quand même la France, quelle que soit, ben c'est la vérité.
Je pensais qu'il n'était plus conseiller.
Quel que soit, oui, tu parles Charles. Quel que soit, si tu veux, quelles que soient les erreurs et les errements de la France, en plus, la France, ça reste quand même le pays des droits de l'homme. Imaginez, quand vous êtes un opposant chinois, je rappelle à qui on parle, je rappelle qui est Xi quand même. Il faut quand même se rappeler, journalistes en prison, les Ouïghours assassinés, génocidés. Alors là, pour le coup, même si Rahim Hassan a refusé de le dire, le génocide des Ouïghours est acté. Donc, est-il nécessaire de faire un saut, et je rejoins Philippe là-dessus, en pensant comme Machiavel dans Le Prince, si le prince décide, tout l'univers travaille à sa décision. En passant, comme toujours avec Emmanuel Macron, que tout procède de lui, ça nous a déjà mis le mur dans le mur une fois avec, comment dirais-je, Vladimir Poutine, et on recommence la même chose, parce que la réalité sur ce qu'on a signé hier, alors Xi Jinping c'est un prince rouge, hein, c'est quelqu'un de très cultivé, comme son épouse d'ailleurs, donc et puis c'est quelqu'un en plus de ça qui est très cultivé, c'est l'aristocratie entre guillemets communiste, mais c'est aussi quelqu'un qui connaît bien la culture européenne, contrairement à ce qu'on dit, la Chine, l'Europe, ça compte pas, ça n'est pas vrai. Mais quand même, la réalité, c'est qu'a priori, Xi voulait être reçu à Versailles, a priori, l'Élysée aurait refusé, mais cette gradation de la diplomatie de l'intime, la réalité, c'est que ce qu'on a obtenu, qu'on arrête les enquêtes sur les producteurs de cognac, autrement dit, sur Bernard Arnault, LVMH, Mouet-Annecy.
Qui voilà. Était présent à l'Élysée hier.
Bien sûr.
On continue le tour de table.
Non, mais très rapidement. Moi, je pense qu'effectivement, oui, il faut le recevoir parce que dans le sens où il y a du business, il y a du business aussi à faire, et aussi derrière, il faut que la France, par ce biais de séduction, parce que je pense qu'effectivement, même l'infréquentable, il faut essayer de, on va dire, le seul pays qui parle aujourd'hui de manière franco avec Vladimir Poutine, c'est la Chine. Et je pense que si on essaie.
Non, il y a, c'est pas vrai. Il y a l'Iran et la Turquie.
Oui, mais il y a aussi la Chine qui est un partenaire aussi privilégié aussi de Vladimir Poutine. Donc, je pense aussi qu'il est nécessaire que peut-être que la France, peut-être par son poids, effectivement, en l'emmenant, je pense, à la Mongie, en lui faisant goûter les produits du terroir, lui dire, tiens, écoute, goûte, à côté, est-ce que tu as une petite idée comment on pourrait régler le conflit russe ukrainien? Je caricature. Mais je pense qu'effectivement. Moi, je pense qu'à un moment donné, que peut-être que si on doit on doit, par le biais de la séduction française, essayer de peut-être d'expliquer aux Chinois que, effectivement, nous avons une vision du monde de la sorte, même si vous n'êtes pas totalement d'accord avec nous, essayez de prendre ce qu'on vous offre et peut-être essayer de nous aider aussi à sortir de ce marasme géopolitique qui fait du mal à notre planète. Et effectivement, je pense aussi que la Chine aussi a besoin de nous parce que économiquement, peut-être aussi que ça marche pas très bien aussi pour eux.
Jean-Joseph Boileau, vous avez écouté nos trois vraies voix. Je rappelle, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des grands pays émergents et notamment de la Chine. On va deviser évidemment, mais très honnêtement, de ce que vous connaissez de Xi Jinping et de la Chine, est-ce que ce qu'on propose dans le cadre de cette venue peut amener à des débouchés intéressants? Est-ce que ça a une portée quelconque de ce que vous savez de Xi Jinping?
Moi, d'abord, je ferai très attention à séparer la Chine, les Chinois et Xi Jinping. Vous m'excuserez, mais j'ai énormément d'amis en Chine, d'amis chinois en France d'ailleurs aussi, et je pense qu'à enfermer les peuples dans leur système et leurs dirigeants, on va vers un monde de haine, et ce que avez dit précédemment sur la montée d'antisémitisme, etc., contribue depuis quelques années à cette montée des risques. Moi, en tant qu'économiste, je perçois, parce que cette haine se traduit sur le plan des relations économiques internationales par de plus en plus de tensions, de rivalités. Le mot « économie guerre » est en train de prendre de l'importance démesurée, parce qu'on se demande si c'est d'ailleurs le mot « guerre » ou « économie » qui l'emporte. Moi, je dirais ensuite sur Xi Jinping, il est au pouvoir. Voilà, c'est un fait. Deuxièmement, si on ne parle qu'avec ses amis, vous êtes bien d'accord avec moi qu'on ne va pas parler avec beaucoup de monde.
C'est ça.
Tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de discussion là-dessus, en fait.
J'ai un peu l'impression, parce que quand j'entends dire qu'on n'aurait jamais dû le recevoir, je ne parle pas
de... Qui a dit ça? Personne. Aucun candidat, aucun homme politique n'a dit qu'on n'aurait jamais dû le recevoir. Ça, c'est des paroles d'ONG. Non, personne.
Continuez, Jean-Joseph.
Non, il y a une toile de fond en France là-dessus. Donc, sur le fond, il y a deux sujets qui étaient à l'origine de cet échange qui, rappelons-le quand même, s'inscrit dans le 60e anniversaire de la reconnaissance par la France de la République populaire de Chine. Et c'est important de maintenir des rites à l'échelle mondiale. De même qu'on peut se moquer de ce que le président Macron a invité dans les Pyrénées, le président Xi Jinping, il faut savoir que, pour être un ancien diplomate de mon côté, nous avons une règle qu'on appelle la réciprocité. Mmh. Et donc, en fait, ce que le président Macron fait, c'est renvoyer au président Xi Jinping l'invitation personnelle qu'il lui avait accordée. Maintenant, sur le fond, il y a deux grands sujets de cette visite. Le premier, évidemment, c'est la guerre en Ukraine. Et là-dessus, ce qui a été dit sur le plateau tout à l'heure est tout à fait exact. On ne voit pas très bien aujourd'hui une solution sans laquelle la Chine ne sera pas un acteur. Je ne dis pas majeur nécessairement, mais enfin, bon, par définition. Et donc, il est important que dans le secret aussi des discussions privées, il faut le savoir, c'est important, il y a des choses qu'on se dit et qu'on ne dit pas sur le plan public, il y ait entre le président Xi Jinping et le président français une vraie discussion sur ce que les uns et les autres en pensent.
Judith Belair et Frédéric Brindel que vous retrouvez dans Les Vraies Voix à 17h tous les jours sur Sud Radio. Nous, on se donne rendez-vous dans un instant pour les médias, le meilleur des médias. Ils nous prendront la direction de Marseille avec également un point sur l'actualité. A tout de suite, il est 6h16 sur Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio.
Parlons vrai.
Renew. Véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Électrique, hybride, essence, diesel et GPL. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Découvrez Renault Arkana Miles Hybrid, maintenant disponible en occasion dès 199€ par mois. Arkana Business Miles Hybrid, 140 DC d'occasion. LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 4 000€. Offre à particulier jusqu'au 30 juin, si accordiaque, selon stock disponible, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Sud Radio Figeac
103.8
Sud Radio.
Jusqu'au 31 mai, Château d'Ax vous invite à célébrer son anniversaire et vous présente ses offres exceptionnelles à prix fou. Le canapé Lambeau 3 places au look industriel avec tissu 3D et dossier avance-recul grand compas est à seulement 1 590€. À ce prix-là, c'est cadeau. Venez vite en profiter avant le 31 mai et en exclusivité dans votre magasin Château d'Ax le plus proche.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
7h.
Oh.
7h02.
Oh.
7h03.
Bonjour, la météo.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Le Petit Matin Sud Radio, 6h-8h, Laurie Leclerc.
6h18, l'heure du rappel des titres sur Sud Radio. Avec de nouvelles négociations de trêve entre Israël et le Hamas, des délégations sont actuellement présentes au Caire. Israël a assuré aux États-Unis que son offensive militaire sur la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, était limitée. L'un des points de passage pour faire entrer l'aide humanitaire à Gaza devrait rouvrir aujourd'hui. Le blocage des universités continue. Les forces de l'ordre sont intervenues hier soir à la Sorbonne pour déloger des militants pro-palestiniens d'un amphithéâtre. L'établissement va rester fermé jusqu'à la fin de la semaine. Les examens sont reportés. Du côté de Sciences Po Paris, deux étudiants ont été placés hier en garde à vue après, là aussi, des blocages. Après la France, le président chinois Xi Jinping se rend aujourd'hui en Serbie. Il aurait échangé avec le président Macron hier sur la question des droits humains lors de sa visite d'État dans les Pyrénées. Le réacteur nucléaire de Flamanville va pouvoir être remis en service. Avec 12 ans de retard, EDF a obtenu le feu vert pour ce réacteur nouvelle génération qui sera le plus puissant du parc français. Le sport, le PSG éliminé de Ligue des Champions aux portes de la finale. Aucun but marqué contre les Allemands de Dortmund qui ont gagné à l'aller comme au retour 1-0 pour le PSG. Prochain match, ce sera dimanche en Ligue 1 contre Toulouse. Et puis la femme olympique qui arrive aujourd'hui à Marseille, transportée par le trois-mâts, le Bémel, le Bélème. 150 000 personnes sont attendues sur place. La flamme olympique, on y revient justement avec Sud Radio Média, Valérie Expert et Gilles Gansman qui accueillait hier Thomas Soto qui présente l'événement depuis Marseille.
Sud Radio, le supplément média.
Le supplément média avec Thomas Soto. Thomas Soto, bonjour. Vous êtes bonjour. À quelques minutes de prendre votre train pour partir à Marseille parce que...
Oui.
je suis même presque à quelques minutes de rater mon train.
Non, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Après,
merci en tout cas.
Merci d'être avec nous. Vous partez donc pour l'arrivée de la flamme olympique. France Télévisions est sur le pont, Télématin, où on vous retrouve évidemment tous les matins entre 6h, à partir de 6h30. Et puis, eh bien, demain, la France accueille la flamme olympique sur France Télévisions. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui va se passer déjà chez vous à Télématin.
Oh bah, il va se passer déjà qu'on va être là-bas, puisque on prend le train pour Marseille-Saint-Charles tout à l'heure, et que toute l'émission est délocalisée, enfin sur le Vieux-Port, pas très loin de la mairie, à peu près en face, et on va donner le ton de cette journée, même si nous on ne verra pas encore la flamme, hein, parce qu'elle arrive en fin de journée, et c'est la raison pour laquelle en fait c'est toutes les émissions qui vont se dérouler là-bas demain, avec une petite incise quand même pour le 8 mai, parce qu'on commémore aussi le 8 mai, la fin de la guerre. Donc voilà, ça va être une journée très très spéciale, très très enflammée à tous les points de vue, la flamme sous l'Arc de Triomphe, c'est toujours la flamme
à Marseille. Quel est le sentiment? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez le sentiment que ça va faire, ça va être un des événements importants de votre carrière de journaliste?
Je ne sais pas si ce sera un élément important de ma carrière de journaliste, mais j'ai eu l'excitation d'un grand événement qui débute. Vous savez, quand on attend, moi quand j'étais gamin, j'attendais le début des Coupes du Monde de foot comme ça, puis j'avoue que c'était interminable avant, et puis un jour, tac, on y est. Et ben demain, on y est dans les JO. On plonge dans les JO et on va pouvoir s'intéresser vraiment au sport, aux aventures humaines, à tout ce qui fait qu'on aime ça, qu'on aime ces moments de partage. Et je pense et j'espère qu'on va laisser un peu de côté toutes les polémiques, même si évidemment on parlera de tous les sujets, y compris des sujets qui fâchent.
Vous les trouvez ronchons, les Français ?
Oh ben on est ronchons. c'est pas une spécificité française, parce que je me souviens que pour les Jeux de Londres en 2012, tout le monde chez nos amis britanniques a annoncé la catastrophe, c'était nul, on n'était pas prêts, c'était pourri, et ces jeux étaient somptueux. Donc moi je pense que, comme on grogne un peu moins quand même que les Anglais à l'époque, nos jeux seront encore meilleurs.
Alors Thomas, dans les porteurs de flammes, je vais vous poser une question difficile, je vais vous demander votre chouchou. Il y a Tony Parker, Basile Boli, Didier Drogba, Soprano, Jean-Pierre Papin, qui vous émeut comme porteur de flammes qui vont porter cette flamme à Marseille?
Et ben d'abord, moi, ils m'émeuvent tous parce que j'adore le sport. Donc, tout ce qu'ils ont fait, chacun de leurs domaines me touche énormément. Évidemment, l'OM des années 90 et 93, notamment avec Basile Boli, c'est particulier. Mais je veux dire, celui qui m'émeut le plus, c'est celui qui, pour l'instant, ne porte pas la flamme. J'ai lu dans le Figaro ce matin une interview de Michel Platini, qui, pour moi, est une icône absolue. Et il a été le dernier porteur de la flamme pour les JO d'Albertville en 92. Et là, la question que vous avez apportée, il répond, personne ne me l'a proposé. Et ben, je pense qu'il est urgent qu'on propose à Michel Platini de porter la flamme, parce que c'est un des plus grands champions qu'on a et on a un peu trop tendance à l'oublier.
Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est un oubli. C'est assez étonnant.
J'espère que ce n'est qu'un oubli, que ce sera corrigé, vraiment, parce que s'il n'y avait pas eu Platini, il n'y aurait pas eu Zidane. Il n'y aurait pas eu Mbappé, il n'y aurait pas eu 2018, il n'y aurait rien eu de tout ça. C'est sa génération à lui qui a enclenché tout ça.
Alors, dans quel sport vous allez aller voir quand les JO vont démarrer? Le tennis, j'imagine.
Alors, j'ai une petite faiblesse pour le tennis, vous me connaissez. En plus, il y a double dose de Roland-Garros, parce qu'il y a l'Open qui commence à la fin mai, comme à chaque fois. Et puis, il y aura ces JO qui sont de toute façon un climat très particulier. C'est vrai que je vais essayer de me glisser dans les travées de Roland-Garros. Après, je crois que le côté génial des jeux, c'est qu'on va voir des sports et qu'on s'intéresse, qu'on regarde à la télé des sports auxquels on n'aurait même pas pensé s'intéresser un jour et qu'on se prend au jeu. Donc je vais être scotché à ma télé, je crois, à peu près 12 heures par jour pour tout regarder, que ce soit de la télé, que ce soit le hand, évidemment. Moi, j'aime beaucoup les sports co parce que j'aime le ce qui se passe, l'aventure humaine, en fait.
L'idée de l'aventure humaine.
Donc votre copine peut aller faire des pyjamas parties, alors, pendant ce temps-là.
Sans commentaire.
Sans commentaire. Sans commentaire. Combien de temps vous allez rester à Marseille? Vous y êtes.
C'est la journée.
C'est la journée. C'est uniquement la journée. Donc on peut rappeler
que. Pas le temps de se baigner.
Que France Télévisions. Oui.
Si vous avez votre maillot de bain.
Oui.
Je prends tout. Alors ça c'est un souvenir et un héritage de ma vie de reporter. Où que l'on aille, je prends toujours mon maillot de bain. Ça, c'est la base absolue. Les endroits les plus improbables, les pays qu'on visite pour des sujets d'actualité qui ne sont pas drôles, qui sont difficiles, machin, il faut toujours avoir son maillot de bain.
Et vous baignerez dans la Seine ?
Alors, n'étant pas en responsabilité pour les yeux, j'ai l'occasion de répondre très librement que j'attends de voir les séquelles dermatologiques chez nos camarades qui vont le faire et j'envisagerai peut-être la chose pour les Jeux de 2032.
Le Petit Matin Sud Radio, 6h-8h, Laurie Leclerc.
Valérie Expert, Gilles Gansman pour le meilleur de Sud Radio Média, à retrouver à 10h un spécial histoire aujourd'hui avec leur invité Bruno Solo. L'histoire, justement, on s'intéresse aux événements marquants de ce 8 mai et évidemment ce jour-là, en 1945, victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Toujours un 8 mai, on remonte un petit peu le temps. 1898, c'était la naissance de la Ligue des Droits de l'Homme. En 1903, décès du peintre Paul Gauguin sur les îles Marquises. Et puis les naissances de ce 8 mai, Luis Enrique, le sélectionneur du PSG, avec un anniversaire. C'est 54 ans qu'il fête avec un goût un petit peu amer, puisque son club a perdu hier soir. Et il avait pourtant promis lors de son arrivée en tant qu'entraîneur du PSG le 5 juillet 2023 qu'il était là pour remporter la victoire du club. Une promesse qu'il avait faite en français.
Bonjour, tout d'abord, je vais remercier le club pour la confiance en moi. Je suis ravi d'être ici. Et j'espère pouvoir rendre cette confiance avec des trophées importants. Je ne parle pas français, mais j'ai commencé à l'étudier.
Luis Enrique, l'entraîneur du PSG Paris, malgré sa défaite qui n'accédera pas à la finale de Ligue des Champions, qui finit quand même en champion de France en Ligue 1 et qui est en train de remporter la Coupe de France contre Lyon le 25 mai prochain. Anniversaire d'un autre sportif, le tennisman français Benoît Paire qui fête ses 35 ans. Côté cinéma, le réalisateur Michel Gondry fête ses 61 ans, tout comme l'animatrice Laurence Boccolini. Et puis Madame Météo de TF1, Catherine Laborde, elle a été sur la chaîne pendant presque 30 ans. À vous, donner le temps, elle a 73 ans aujourd'hui. Un chanteur également fête son anniversaire, Enrique Iglesias. Studio avec la française Nadia, Tired of Being Sorry, Laisse le destin s'emporter, qui était sorti en 2007. Et puis un petit peu plus tard, Enrique Iglesias qui avait cartonné avec le tube Duele El Corazón en 2016. Enrique Iglesias qui fête donc son anniversaire. Bon anniversaire également à vous qui êtes né un 8 mai. Votre 8 mai qui continue, on vous accompagne si vous êtes peut-être sur la route du travail ou bien levé très tôt ce matin avec dans un instant l'actualité, la météo du jour. Sud Radio, il est 6h27.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Moi, je regarde les matchs, mais je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire.
Sud Radio, la radio du rugby.
Mais non.
Mais si.
Mais arrête.
Si, si, je t'assure.
Donc là, t'es en train de me dire que moi, chef d'entreprise, si ma boîte coule, je pourrais avoir droit à un revenu?
Exactement.
Entrepreneur, dirigeant, artisan, rendez-vous sur gsc.asso.fr. Association GSC, protection des entrepreneurs en cas de perte d'emploi. La GSC est intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS numéro 120-68-162.
Sud Radio Brive-la-Gaillarde.
97.8.
Sud Radio.
Dis donc, cher voisin, on s'est offert une pergola.
Oui, une pergola bioclimatique à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même.
Et tu l'as dénichée où, cette petite merveille?
Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, stores, carports, portes, portails, peintures.
Des fenêtres et volets aussi?
Tout. Et en ce moment, ils sont en promotion à moins de 30% avec livraison offerte.
Usineonline.com. Faut que j'en parle à ma femme. Chérie!
Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez.
La météo Sud Radio.
La météo Sud Radio avec vous, Rémi André, et l'amélioration qui se poursuit aujourd'hui. Bonjour Rémi.
Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Eh bien, aujourd'hui, l'amélioration se poursuit. Lentement, certes, mais sûrement, car nous avons déjà sur la moitié nord un temps plus calme avec, certes, quelques bandes de brume, de brouillard, des nuages bas également, surtout près du littoral. Mais tout cela va lentement se dissiper. Et dans l'après-midi, eh bien, c'est le soleil qui va dominer sur la moitié nord. Au sud, en revanche, nous avons encore tout de même pas mal de nuages, notamment vers les Pyrénées. Mais ces nuages vont peu à peu se dissiper en milieu de journée. Dans l'après-midi, nous retrouverons quelques averses, notamment de depuis la Lorraine jusque vers l'Auvergne et puis également sur le nord de Midi-Pyrénées, notamment sur le Tarn. Mais peu à peu, ben, tout cela va se calmer et à partir de la nuit prochaine, c'est le beau temps qui va se poursuivre car la fin de semaine restera donc marquée par le retour du soleil, d'un temps plutôt estival puisque vendredi et samedi, nous pourrions avoir des températures limitées aujourd'hui entre 17 et 22 degrés. Et je disais donc que vendredi et samedi, nous pourrions dans le sud-ouest dépasser les 28 degrés.
Merci beaucoup Rémi André. 6h30 sur Sud Radio, très bon début de journée à tous en ce 8 mai.
Parlons vrai.
Et tout de suite un point sur l'actualité avec Valentin Bonjean, bonjour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On commence avec les rêves brisés du Paris Saint-Germain, battu une nouvelle fois par Dortmund hier soir en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens se sont inclinés 1-0, synonyme d'élimination. On connaîtra ce soir le deuxième finaliste à l'issue de la rencontre entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Le PSG, de son côté, pourra toujours tenter de se consoler avec la Coupe de France. Le club de la capitale disputera la finale le 25 mai prochain contre Lyon. À la une de l'actualité également, l'excitation à Marseille à quelques heures de l'arrivée de la flamme olympique en France. C'est aujourd'hui que le Bel Aim doit accoster au Vieux-Port après avoir transporté la flamme allumée en Grèce à travers la Méditerranée. Une arrivée célébrée en grande pompe, une armada d'un millier de bateaux va escorter le 3 mai jusqu'au port. Près de 6000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour assurer la sécurité autour de cet événement. Le président de la République se rendra lui aussi sur place. Il assistera à la cérémonie d'accueil sur le Vieux-Port en compagnie de plusieurs ministres. Emmanuel Macron qui s'est dit favorable à la création d'un devoir de visite pour les pères dans une interview accordée au magazine Elle. Le chef de l'État évoque l'ouverture d'un débat autour des familles monoparentales, des familles portées en grande majorité par les femmes seules. C'est un devoir d'être parent, c'est un devoir qui ne s'arrête pas au moment du divorce ou de la séparation, a souligné le président. À l'étranger, la menace d'une offensive israélienne sur la ville de Rafah est imminente dans la bande de Gaza. Après les bombardements, une opération au sol pourrait être menée dans les prochaines heures sur cette ville du sud de l'enclave où se sont réfugiés des centaines de milliers de personnes. En parallèle, les discussions autour d'un cessez-le-feu doivent se poursuivre au Caire, en Égypte. Et puis pour la 11e fois consécutive, un record de température battu à l'échelle planétaire d'après l'observatoire européen Copernicus qui surveille les évolutions du climat. Le mois d'avril 2024 a connu une température moyenne de 15,03 degrés, ce qui représente 1,58 degrés de plus qu'un mois d'avril normal sur Terre. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. Bonne journée à tous.
Merci beaucoup Valentin.
Le Petit Matin Sud Radio, 6h-8h, Laurie Leclerc.
6h32 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 8h avec, juste après 7h, la flamme olympique à l'honneur et surtout une porteuse de flamme, une porteuse de flamme malvoyante. Elle va nous expliquer son expérience puisque cette flamme olympique arrive aujourd'hui à Marseille. Marseille à l'honneur de ce petit matin et à l'honneur également de la presse locale, la presse nationale, les yeux tournés vers le Bel Aim, ce 3 mâts qui a transporté la flamme depuis la Grèce jusqu'aux côtes françaises également. Dans les prochaines minutes, hashtag on en parle, ce qui fait réagir sur les réseaux sociaux. Un duel très tendu entre Louis Boyard et François Bellamy, hein, l'insoumis, et la tête de liste des Républicains pour les élections européennes. Ça fait parler, vous saurez pourquoi dans quelques instants. Et tout de suite, nous retrouvons Jean-Jacques Bourdin, parlons vrai sur Sud Radio. Et nous allons aborder avec Jean-Jacques la fermeture des maternités.
Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
Voilà un sujet qui nous concerne, qui vous concerne tous, la mortalité infantile. Alors, néonatale, je dirais, pas infantile, néonatale. Quels sont les chiffres? Mais les chiffres ne sont pas bons, les chiffres français. Décès d'enfants âgés de moins de 28 jours, hein, la mortalité néonatale. La France se classe au 22e rang sur 34 pays européens au classement des décès de nourrissons de moins d'un mois. Oui, Ça nous surprend, ces chiffres nous surprennent, nous allons essayer de savoir pourquoi et quelles sont les solutions, parce que la Cour des comptes fait des recommandations. Alors pour en parler, Lamine Garbi est avec nous, président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Lamine Garbi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Philippe Juvin est député LR des Hauts-de-Seine, rapporteur d'une mission sur la mortalité infantile. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ces chiffres, d'abord, est-ce que ces chiffres vous alarment ? Est-ce que ces chiffres sont en augmentation ? Cette mortalité néonatale est en augmentation ou pas, Philippe Juvin ?
La mortalité infantile, c'est la mortalité entre le jour de la naissance et le premier anniversaire.
Oui.
Et elle augmente. En fait, elle a baissé jusqu'en 2012.
Oui.
Partout en Europe, y compris en France. Et depuis 2012, elle continue à baisser en Europe. Mais elle remonte en France depuis 2012. Donc, ça correspond, le surplus par rapport à nos voisins de mortalité des enfants de moins d'un an,
oui,
ça correspond à l'équivalent de 1200 enfants, 48 classes de maternelle qui meurent tous les ans en France, qui ne devraient pas mourir.
48 classes de maternelle.
L'équivalent de 48 classes.
Tous les ans en
et
France.
Et dans l'indifférence générale.
Mais je suis content qu'on évoque ce sujet. Dans l'indifférence générale, alors que la France est réputée pour son système de santé, pour la qualité des soins donnés. Lamine Garbi, vous êtes un professionnel de la santé. Comment expliquer ce chiffre ?
Peut-être par le maillage du territoire qui est encore trop important. Il n'y a peut-être pas eu les regroupements qu'il fallait, les tailles suffisantes pour pouvoir avoir les compétences médicales en nombre, médicales et paramédicales.
Vous rejoignez la Cour des comptes qui dit il y a trop de maternités sous-équipées et trop peu sollicitées. Conséquence, évidemment, s'il y a un grave incident après la naissance, la mère, surtout l'enfant est en danger, la mère aussi.
Les maternités de 300 accouchements par an, c'est pas un bébé par jour. Donc effectivement, il n'y a pas l'entraînement des équipes, et lorsqu'il y a un drame,
oui,
mais forcément, et peut-être la réactivité n'est pas la même. Mais il faut savoir tout de même, il faut modérer ce chiffre-là, parce que les petites maternités sont de niveau 1. Normalement, ce sont des grossesses heureuses, oui, sans pathologie associée. Et on constate qu'il y a quand même plus de décès dans les niveaux 2 et 3, parce que ce sont des grossesses à risque. Alors dire que la proximité est dangereuse, je pense qu'il faut faire attention.
C'est ce que dit la Cour des comptes.
Il faut modérer les propos. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la stabilité des équipes médicales. Ou une équipe médicale qui est stable et qu'on arrive à faire fonctionner, ou il y a ce qu'on appelle des remplaçants, plutôt des mercenaires. Et là, je dis halte, danger, il faut fermer.
Qu'en pensez-vous, Philippe
Juvin ? En fait, on ne connaît pas aujourd'hui les causes de l'augmentation, ouais, de la mortalité en France. D'abord, pourquoi ? Parce qu'on ne les compte pas. Il n'y a pas de registre national qui analyse pourquoi les enfants meurent et pourquoi tel va mourir et tel ne meurt pas. Et donc, c'est une des recommandations que nous avons faites à l'Assemblée, c'est qu'on, oui, se dote d'un registre national comme ça se fait dans les pays étrangers. Quelles sont les causes possibles, les facteurs,
oui,
de risque ?
Alors,
Lamine Garbi a raison, il y a peut-être un effet petite maternité, même s'il n'est pas prouvé, hein, objectivement. Il y a peut-être un effet également sur la prématurité. En France, on sait que les très grands prématurés, et les prématurés d'ailleurs, ont un taux de survie qui est plus faible que chez nos voisins.
Ils sont mal pris en charge.
Il y a plusieurs raisons qui sont évoquées. Par exemple, on a moins de lits de soins intensifs pédiatriques qu'il en faudrait, du simple au double sur le territoire. On considère qu'un très très grand prématuré, on va dire 24 semaines, donc c'est, oui, une grande prématurité, le taux de survie c'est 30%. Alors qu'en Suède, c'est 70%. Il y a également probablement un effet lié à la mère. Les grossesses sont plus tardives, mmh, et la mortalité augmente d'une manière significative avec l'âge de la mère. Alors vous allez me dire, la grossesse est plus tardive.
Dans tous les pays d'Europe.
C'est vrai, sauf que dans les autres pays d'Europe, il y a une augmentation de l'âge de la mère, mais il n'y a pas de mortalité qui augmente parallèlement. Il y a peut-être aussi des effets sur des pathologies qu'on voyait moins chez les mères avant et qu'on voit plus, l'obésité. Mmh. Les femmes sont plus obèses aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans. Le diabète.
Elles fument.
Le tabac.
Elle 17%
des femmes au troisième trimestre de grossesse, donc à la fin de la grossesse, continuent à fumer. 17%.
Ce qui est une folie.
Ce qui est très, 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 très important.
C'est dangereux.
Et puis, il y a d'autres facteurs qui probablement jouent. Vous savez, il y a toute la question de la position de l'enfant. Comment doit-on coucher un bébé dans le lit ? Il faut coucher un bébé sur le dos, dans une turbulette, sans tour de lit. Il ne faut pas dormir avec le bébé dans le même lit, parce que sinon on risque de l'étouffer. Et bien tous ces éléments-là, Quand vous regardez, par exemple, les photographies sur les publicités de couches, eh bien, vous voyez des enfants qui sont sur le ventre ou qui font dodo avec leur papa parce que c'est mignon sur la photo. Eh bien, ça, c'est idiot parce que ce sont de mauvaises images de santé publique. Donc, la mortalité infantile qui augmente en France, hein, je le répète, d'une manière significative depuis 2012, alors qu'elle baisse ailleurs, elle est probablement expliquée par plusieurs facteurs et tous ces facteurs, bien, s'accumulent. Oui. Et ce qu'a dit Lamine sur les petites maternités, c'est probablement vrai. Hein.
Oui, mais dans les petites maternités, Lamine Gherbi, vous connaissez bien. Oui. Est-ce qu'on est vraiment équipé? Franchement, je ne mets pas en cause la qualité du médecin, ni des équipes médicales, mais est-ce qu'on est vraiment équipé suffisamment en cas de risque qui pourrait survenir à tout moment?
On est équipé pour une grossesse simple.
Oui.
S'il y a une réanimation à produire, bien sûr que non. Mais oui. Normalement, on ne doit pas avoir de grossesse à risque dans ces petites maternités. Et la difficulté que nous avons, c'est bien sûr la qualification des médecins et des équipes, mais c'est surtout l'absence. L'absence. Comment faire en sorte que l'on puisse avoir des gynécologues obstétriciens et chirurgicaux qui vont réaliser moins de 100 accouchements chacun? Il y a aussi un problème de rémunération pour que le gynécologue paye son assurance. D'assurance professionnel, il faut qu'il mette au monde 100 bébés pour payer juste
son assurance.
Jean-Jacques Bourdin, que vous retrouvez dès lundi sur Sud Radio. Il prend quelques jours de repos, mais nous, on est là, on est avec vous aussi. Vous êtes au travail, on vous accompagne le petit matin jusqu'à 8h. On est de retour dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio. Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Estimation du temps de trajet. Calcul en cours. Calcul en cours. Je n'y arrive pas. Comment avez-vous passé le péage si vite? J'hallucine. Grave.
Excellent. Avec le Pass Ulysse, passez au péage sans attendre pour 2 euros par mois. Et zéro si vous ne l'utilisez pas.
Ulysse, et c'est réglé.
Voir conditions sur ulysse.com.
Il était une fois un homme à l'appétit d'ogre en quête de son prochain encas. Souhaitant déguster un bon fruit, il déposa dans son caddie les bananes à 99 centimes le kilo chez Aldi. Et il salivait déjà à l'idée de toutes les dévorer. Oui, bah, laisse-en pour les autres, CEO. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, variété Cavendish, offre valable jusqu'au samedi 11 mai, info sur aldi.fr.
On peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service. Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Le Petit Matin Sud Radio, 6h-8h, Laurie Leclerc.
À 6h42, le rappel des titres. La flamme olympique arrive aujourd'hui à Marseille, transportée par le 3-mât Le Bellem. Le chaudron sera allumé ce soir vers 19h45, à 79 jours de la cérémonie d'ouverture des JO. 150 000 personnes sont attendues aujourd'hui dans la cité phocéenne. Nouvelle négociation de trêve entre Israël et le Hamas, avec des délégations actuellement présentes au Caire. Israël qui assure aux États-Unis que son offensive militaire sur la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, est limitée. Le blocage des universités continue. En France, les forces de l'ordre sont intervenues hier soir à la Sorbonne pour déloger des militants pro-palestiniens d'un amphithéâtre. L'établissement restera fermé jusqu'à la fin de la semaine. Les examens sont reportés. Deux étudiants ont également été arrêtés et placés en garde à vue à Sciences Po Paris. Le réacteur nucléaire de Flamanville va pouvoir être mis en service avec 12 ans de retard. EDF a obtenu le feu vert pour ce réacteur qui sera le plus puissant du parc français. Et puis le PSG éliminé de Ligue des Champions aux portes de la finale. Aucun but marqué contre les Allemands de Dortmund. Tout de suite, on retrouve Jean-Jacques Bourdin pour... on retrouve Les Vraies Voix tout de suite, Judith Belair, Frédéric Brindel, Les Vraies Voix, aujourd'hui, qui aborde la reconstruction de la gauche.
Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix.
Le coup de projecteur des Vraies Voix, c'est maintenant. Pas un acte ne doit rester impuni, pas un antisémite ne doit avoir l'âme tranquille. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Gabriel Attal lors de son discours au 38e dîner du CRIF hier soir, en promettant de faire preuve d'une fermeté exemplaire à chaque acte. Monsieur Attal a également dénoncé le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, dont les propos présentent le Hamas comme une organisation résistante et du même fait non terroriste. Et ses propos lui font honte, tout simplement. Olivier Faure, le chef du PS, a quant à lui souligné l'antisémitisme de M. Mélenchon, ce dernier faisant tout pour rendre impossible une alliance, selon ses propres mots ce matin sur Sud Radio chez Jean-Jacques Bourdin. Ce qui nous amène à la question du jour que nous vous posons sur Twitter. La reconstruction de la gauche est-elle possible sans LFI?
Écoutons tout de suite l'extrait Olivier Faure ce matin sur Sud Radio.
Jean-Luc Mélenchon qui malheureusement se complaît dans une forme de conflictualité permanente qui nuit à la gauche parce qu'elle lui impose un plafond de verre qui descend chaque jour plus bas. À chaque étape, Jean-Luc Mélenchon n'a pas cherché à trouver ce qu'était la parole commune, mais a cherché à emmener la gauche sur les positions les plus radicales. Eh bien, la réponse pour nous, c'est non. Je vois que la pente qu'ils ont suivie est une pente qui cherche à creuser à chaque étape les écarts entre les uns et les autres. Et donc, nous ne pouvons pas accepter de travailler avec des gens qui cherchent à creuser l'écart. Là, au contraire, il fallait chercher les points communs.
Parlons vrai, les auditeurs de Sud Radio. Vous réagissez au 0826 300 300 et sur le compte X de Sud Radio. Parlons vrai, la gauche française qui a vu son électorat s'effilocher depuis la fin du quinquennat de François Hollande. Alors, est-ce inéluctable pour vous? Et oui, Olivier Faure annonce une coalition post-européenne sans LFI de Jean-Luc Mélenchon. Dans ces conditions, la gauche peut-elle renaître de ses cendres et accéder de nouveau au pouvoir? Nous avons un expert.
Oui, Luc Rouban qui est directeur de recherche CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Bonjour.
Bonsoir, oui.
Bonsoir, bienvenue.
C'est vrai, 18h41, c'est le soir. Le principe, cher Luc Rouban, vous écoutez nos trois vraies voix, ont un petit commentaire et vous devisez par la suite Philippe Bilger.
Alors, c'est une question pertinente, mais qui imposerait peut-être d'avoir plus de temps. Mais au fond, à la fois, j'ai envie de dire, bien sûr, que ce serait bien d'avoir une gauche sans Jean-Luc Mélenchon, mais à peine ai-je dit cela que je comprends que sans lui et sans ce qu'il représente, il y a non seulement du talent qui disparaît, mais une forme de structuration qui risque de s'effacer. Alors, j'allais dire, au fond, une synthèse que je crois moi-même inconcevable, en réalité, ça aurait été d'avoir une gauche qui aurait réussi à persuader Jean-Luc Mélenchon et ceux de ses soutiens qui lui demeurent fidèles, il y en a de brillants dans le lot, que en réalité, il doit lui-même changer de stratégie pour que la gauche qu'il apprécie demeure et que LFI ne disparaisse pas dans les limbes de la vie politique. Mais tout cela, j'ai conscience que c'est assez naïf de ma part. Je trouverais dommage que Jean-Luc Mélenchon, aussi délirant qu'il soit par moment, privât la vie politique de la gauche et de l'extrême gauche de ce qu'il est.
Grosso modo, Françoise Degois, sans Jean-Luc Mélenchon, peu de visibilité, c'est ça, non?
Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est une vraie question que vous posez, parce que c'est en gros, est-ce que la gauche peut exister sans LFI? La réponse, évidemment, est oui. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a brisé tout seul son propre destin le 7 octobre. Il n'avait qu'une seule chose à faire après la présidentielle, c'était d'élargir encore plus pour essayer d'attraper ces 400 000 voix qui lui manquaient pour la prochaine fois. Il a choisi absolument l'inverse, l'insulte, et puis après la stratégie électorale. Donc il s'est détruit tout seul. Moi, je crois qu'il y a beaucoup. Et quand vous regardez ce qui est en train de se passer, il y a énormément de gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, plutôt sociaux-démocrates, rose-vifs, genre moi, qui aimaient le social et qui ne voteront plus jamais pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a 30 ou 40% des électeurs du premier tour de Jean-Luc Mélenchon qui ne seront plus jamais là. Donc moi je veux bien tout ce qu'on veut sur le talent. Bien sûr que Jean-Luc Mélenchon a un talent infini, mais ce qui se passe depuis le 7 octobre le disqualifie. Et je pense que Olivier Faure a raison. Je pense que d'autres personnalités vont émerger. Je pense à Ruffin, Glucksmann, probablement dans ces élections, mais lui n'a pas d'ambition présidentielle. Donc oui, je crois que c'est pas le problème de LFI, c'est la figure de Mélenchon qui tout seul s'est transformé tout seul comme un des diables de la République.
Abdoulaye Kanté.
Est-ce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est carrément dans le titre de le fait que cette gauche est irréconciliable? C'est la réalité, parce que effectivement, quand on voit Jean-Luc Mélenchon, qui effectivement est un très bon orateur, quelqu'un de très intelligent, qui malheureusement, c'est, j'ai envie de dire, mais il a perdu en fait en sens républicain dans, par rapport à ses postures, notamment sur la police, donc sur d'autres, avec ses diatribes, et aussi, pour moi, je pense que ça a posé problème. Et effectivement, quelqu'un qui est de très, très intelligent au niveau oratoire et qui a peut-être aussi une vision, je pense peut-être pour la France, qui peut-être... entendable aujourd'hui, ben malheureusement, je pense qu'on est dans cette gauche qui a perdu en cet individu, et que et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de trouver cette gauche qui était cette gauche sociale, cette gauche qui parlait à ces quartiers populaires, cette gauche qui parlait justement à ces personnes qui étaient dans cette galère, etc. Donc c'est ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ces personnes-là, qui étaient les fervents défenseurs de cette gauche, se sont trahis aujourd'hui, et c'est la réalité.
Judith Belair, Frédéric Brindel, les vraies voix que vous retrouvez pour vous accompagner à 17h sur Sud Radio. 6h50 tout de suite, hashtag on en parle, et on prend la direction de Sciences Po Paris, où les mobilisations pro-palestiniennes continuent. Une centaine d'étudiants et de professeurs ont été hier devant l'université, rejoints par des personnalités politiques. D'un côté, le candidat tête de liste des Républicains aux Européennes, François-Xavier Bellamy, venu soutenir les étudiants non grévistes. De l'autre, le député de la France Insoumise, Louis Boyard, aux côtés cette fois-ci des manifestants pro-palestiniens. Les deux élus qui répondaient chacun de leur côté à des interviews à quelques mètres l'un de l'autre, quand Louis Boyard est rejoint par François-Xavier Bellamy.
Monsieur Bellamy, est-ce que lui, il condamne ce qui est actuellement en train de se passer à Gaza? Il est incapable de dire qu'il condamne ce qui se passe à Gaza. Donc si jamais
pardon,
Vous condamnez?
Je condamne évidemment cette situation qui a plongé la population palestinienne en enfer. Et le premier responsable de cette situation, c'est le Hamas, non, monsieur Boyard.
Il va bien
c'est
falloir réussir Hamas. À obtenir un cessez-le-feu, monsieur.
Et bien pour ça, il faut que le Hamas
vous appelez au cessez-le-feu.
Un dialogue qui dure plusieurs minutes. Une professeure de Sciences Po se joint à l'échange. Le ton monte entre les deux élus qui sont face à face à moins de 30 cm l'un de l'autre. Le doigt de Louis Boyard pointé vers François-Xavier Bellamy.
Si jamais vous avez un peu d'honneur et un peu de fierté pour votre pays, vous ne pouvez pas laisser la France se rendre complice d'un génocide.
Parce que des gens qui sont incapables depuis le 7 octobre de dire que le Hamas est une organisation terroriste n'ont aucun honneur. Qui retient des otages ?
Ces étudiants, ils demandent la paix. Ces étudiants, ils demandent le cessez-le-feu. Et vous venez les insulter. Vous venez raconter n'importe quoi.
Avec le Hamas, il n'y aura pas de paix dans la violence. Et vous le savez très bien.
Mais le cessez-le-feu, il y a eu une proposition de cessez-le-feu qui a été faite.
Dérouler votre discours.
Moi, je suis venu pour dire que la rue, elle n'est pas aujourd'hui.
Là,
mais on écoute ce qu'ils disent depuis très longtemps. Bien sûr que si. Je suis même venu dialoguer avec eux à la Sorbonne.
Mais ce que vous racontez sur l'amphithéâtre, d'accord, c'est faux, ça a été démontré.
La France insoumise ici, c'est pas de l'opportunisme politique, peut-être. Diffuser les discours de Jean-Luc Mélenchon dans la rue Saint-Guillaume, c'est pas de l'opportunisme politique.
Il y a deux étudiants qui ont été arrêtés ce matin. Donc forcément, on vient ici pour essayer de faire en sorte que ça se passe correctement.
Ça fait des semaines que vous êtes là. Ça fait des semaines.
Et après cet échange houleux, Louis Boyard a rejoint des manifestants. Il a été repoussé par les forces de l'ordre et accompagné ensuite hors de cette rue Saint-Guillaume où se trouve Sciences Po par plusieurs policiers. Beaucoup de réactions. Pour les uns, c'est Louis Boyard qui humilie François-Xavier Bellamy. Pour les autres, c'est l'inverse. Certains internautes pointent également la différence d'âge et de niveau d'études entre les deux élus. Monsieur Boyard est un petit garçon pris en faute par le professeur Bellamy, a-t-on pu lire sur Twitter. On passe au une de la presse en ce 8 mai, largement consacrée à l'arrivée de la flamme olympique aujourd'hui à Marseille, avec les trois mâts majestueux du Belém, ce navire qui transporte la flamme olympique de la Grèce jusqu'à nos côtes françaises, qui s'affiche en une du quotidien La Marseillaise, ponctuée par l'exclamation « À bon port !» Exclamation également en une de la Provence, la flamme arrive pour le Maine Libre et le Courrier de l'Ouest. C'est une fierté nantaise, le Belém est attendu à Marseille. On vous pose la question sur nos réseaux sociaux, cette arrivée de la flamme olympique à Marseille. Allez-vous suivre cet événement? Oui ou non? Il y a 1 milliard de téléspectateurs attendus pour suivre l'allumage donc de cette flamme, l'arrivée de cette flamme olympique ce soir à Marseille. 1 milliard de spectateurs attendus dans le monde entier. Le Belém, toujours le bateau qui partage la une du Parisien avec le PSG qui titre le grand gâchis. Un PSG éliminé aux portes de la finale de Ligue des Champions, sans flamme pour le journal L'Équipe. La contestée LGV, la ligne à grande vitesse entre Toulouse et Bordeaux, fait elle la une de la Dépêche du Midi avec le coup d'envoi des travaux qui a été donné hier. Et côté presse nationale, c'est le conflit au Proche-Orient qui est en une du Figaro. L'espoir d'une trêve qui s'éloigne avec l'attaque d'Israël à Rafah. Également ce sujet qui occupe les deux premières pages du quotidien. Cette image de blindé dans les rues de la ville de Rafah au sud de la bande de Gaza. Un blindé coiffé d'un drapeau israélien. En ce qui concerne le volet économie du Figaro, il met à l'honneur la chanteuse américaine Taylor Swift qui débarque en France à une série de concerts qui commence demain à la Défense Arena de Paris, également au Groupama Stadium de Lyon. De la musique, mais pas seulement, puisqu'il a des retombées économiques attendues pour les villes hôtes des hôtels de Lyon qui affichent complet, peut-on lire dans le Figaro Économie, 85% de Britanniques et d'Américains attendus dans ces hôtels à Paris. C'est le centre commercial qui se trouve près du lieu de concert qui espère augmenter ses ventes de 30%. Libération, c'est une question en une. Peut-on vraiment arrêter de voler l'aviation qui a retrouvé son niveau d'avant Covid malgré une conscience écologique de plus en plus forte? Et on termine avec ce mot à la une du courrier Picard, les chaudicous. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les chaussées pour les circulations douces. Ce mot qui concerne dans le département 45 km d'axe à trois voies, pas toujours à maîtriser pour les automobilistes. Prochain rendez-vous, ce sera à 7h. On se retrouve avec l'actualité et la météo. Il est 6h55 sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio.
Quand un gamin casse une voiture et que une demi-heure après les policiers sont obligés de les laisser ressortir parce qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, soi-disant, forcément, le surlendemain, ils les retrouvent dans la rue pour recommencer la même opération. Plus on laisse faire et plus on s'autorise des choses. Si on commence à autoriser les enfants à laisser leurs papiers par terre, le lendemain, on va les autoriser à cracher sur leurs voisins et le surlendemain, à leur mettre une baffe et le sur-surlendemain, à prendre une barre de fer pour leur taper sur la figure.
Sud Radio, parlons vrai.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Dans mon dictionnaire, ils mettent concombre, légume apprécié pour sa chair croquante et rafraîchissante.
Oui, et ?
Et c'est incomplet, parce que c'est concombre français, légume apprécié pour sa chair croquante et rafraîchissante.
Vous avez raison. Et pour son prix. Car du 7 au 11 mai chez Leclerc, les concombres Origine France sont à 1,16€ le lot de 2. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 58 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 300-400 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Sud Radio à Chalon-sur-Saône en DAB+.
Sud Radio.
Eh oh, enlevez votre casque de vélo, vous êtes dans une piscine là.
Oui, mais en ce moment avec Esso, on peut gagner un vélo électrique par jour. Alors faut se tenir prêt.
Et comment on participe?
Ah bah allez sur ecomobilité-jeuxesso.fr.
Ok, merci.
Conditions sur ecomobilité-jeuxesso.fr du 1er mai au 31 août 2024. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Esso.
L'horoscope Sud Radio.
À 6h56 sur Sud Radio et tout de suite donc votre horoscope avec vous Bénédicte, bonjour.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 8 mai.
Bélier, vos doutes s'estompent et cela vous met du baume au cœur pour aller de l'avant.
Taureau, vous êtes décidé à affronter des questions importantes et vous saurez entraîner votre entourage.
Gémeaux, vous êtes paré pour lutter sans vous en rendre compte.
Le sommeil sera votre meilleure source d'énergie, il gagne en qualité. Profitez-en.
Cancer, vous en faites trop pour les autres. Accordez-vous des pauses rien que pour vous et pour vous relaxer.
Lion, des événements se produisent dans une ambiance assez stressante.
Vous affrontez des surprises et des changements inévitables.
Vierge, n'essayez pas d'imposer vos conceptions.
Soyez réceptif aux conseils, ils peuvent vous aider considérablement.
Balance, vous avez besoin de vous démarquer à tout prix.
N'en faites pas trop dans la provocation.
Scorpion, le ciel vous invite à vous renouveler, à vous libérer de certaines pressions étouffante et à revendiquer votre individualité.
Sagittaire, vous vous affirmez avec aisance. Vous mettez un terme à des relations malsaines sans regret.
Capricorne, le contact avec la terre, la nature, les animaux vous serait particulièrement régénérant aujourd'hui.
Verseau, si vous jouez les cartes de l'honnêteté et de la souplesse, vous viendrez beaucoup plus facilement à bout des attaques dirigées contre vous.
Poisson, des alliances favorables deviennent possibles.
Allez au-delà des apparences, vous serez surpris vous-même.
Merci beaucoup Bénédicte.
La météo Sud Radio.
La météo avec vous Rémi André, bonjour Rémi.
Bonjour Laurie, bonjour tout le monde.
Alors le temps pour ce début de week-end prolongé.
Ben écoutez, vous en êtes peut-être rendu compte, cette nuit, ça s'est nettement amélioré avec le retour des éclaircies sur quasiment tout le pays. Alors, il reste encore quelques nuages qui traînent depuis les Savoies jusque vers le Languedoc et le Roussillon. Et là, quelques ondées sont encore là du côté, donc, de l'Occitanie. Mais globalement, c'est déjà en train de s'arranger très nettement. Et les éclaircies ont tout de même permis à quelques bandes de brume, de brouillard, de se former. Des brouillards que l'on retrouve principalement sur les bords de la Manche, mais également sur la Dordogne, quelques-uns dans le centre. Ces bandes de brouillard vont prendre leur temps pour se dissiper, mais tout cela va se dissiper et c'est donc le soleil qui va dominer aujourd'hui. Tout de même, nous verrons se former encore quelques cumulus, notamment sur la partie est du pays, depuis le Grand Est jusque vers le Sud-Est, mais également quelques-uns sur le relief des Pyrénées, du Massif Central. La plupart de ces nuages pourraient aller jusqu'à l'averse, principalement sur le relief. Mais aujourd'hui, avec cette amélioration, eh bien, on voit les températures matinales se rafraîchir un petit peu, évidemment, mais des températures qui sont restées tout à fait raisonnables, toujours entre 7 et 12 degrés. Dans la journée, ces températures vont évidemment remonter. Elles pourront atteindre assez facilement à Brest 22 degrés, 20 degrés pour Paris et pour Lyon, à Limoges 20 degrés, à Toulouse nous irons jusqu'à 20 degrés également. Vous voyez, c'est des températures qui sont généralement comprises entre 18 et 22 degrés. On pourrait localement aller jusqu'à 24 degrés sur le Languedoc-Roussillon ou la Provence. Alors ce beau temps retrouvé, en fait, va persister tout au long de ce long week-end, en fait, de ce pont, puisque jusqu'à dimanche, nous aurons droit donc à une situation plutôt estivale, avec même demain et après-demain des températures qui pourraient dépasser les 20.